RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, tous les mardis à télécharger sur rmc.fr, avec aujourd'hui une Dream Team. On va jouer Small Ball aujourd'hui avec Sacha Alix, Félix Gabory et Stephen Brun. Salut les gars, on a,
salut tout le monde, salut tout le monde.
On a deux petits aujourd'hui.
Deux petits, trois binoclars.
Je me comptais pas dans les petits, moi je suis juste le coach. Toi.
Oui, mais bah, vu qu'on a beaucoup de blessés, tu peux rentrer.
Ah ouais, ouais. Ah bah c'est inquiétant alors. Hein. Va falloir que tu filoches, Steph, parce que
on va essayer.
Sinon ça va être difficile. C'est un spécial Oklahoma City Thunder. Voilà, équipe en forme, équipe qui fait plaisir. Et on va se poser la question, OKC est-il aussi fort que Boston, voire plus fort? Puis on va mettre Cleveland dans la discussion forcément, puisqu'ils ont pour l'instant un meilleur bilan. Et puis, c'est la finale de la NBA Cup entre Milwaukee et OKC. Vous allez me donner votre favori. Et puis surtout, on va faire le débat. Est-ce que cette compétition vous a convaincu? Parce qu'au départ, elle était un peu obscure. Et puis peut-être qu'elle commence à trouver sa place. Dans la partie historique, vous allez me faire le meilleur 5 all-time, Sonics Thunder, puisque c'est la même franchise, même si on a changé de ville et de nom. Et c'est pas si facile parce qu'il y a du beau monde. C'est une ancienne franchise hein, qui est assez. Comment dire?
Mythique.
Mythique.
Ouais.
Merci.
Alors moi j'ai une info, Johan Petro sera pas dans mon meilleur 5. Hein.
Johan Petro n'y est pas?
Non,
okay. Il est 6ème.
Aucun français.
Mika, j'ai la balle non plus.
Non plus.
Okay. Et puis le quiz. Alors dans le quiz, on va naviguer entre le passé et le présent, évidemment, entre les Sonics et le Thunder. C'est parti donc pour un spécial OKC dans Basket Time sur RMC.
Oklahoma City has gone 1-6 on the start. And with a hit right there by Shane.
OKC, by the way, is pretty good there, Jet.
Yes. They are untraditional. They're tough to guard. They're versatile. They can switch everything.
This will bring the house down.
Back to Shea. Gilgeous Alexander.
All right, thanks, guys. Congrats.
Hold on. Go ahead, Mark.
And what I like about them, Ernie, as you watch them play, you can really tell they enjoy each other.
Allez, OKC, donc leader à l'ouest avec un bilan de 20 victoires pour 5 défaites. Un leader Shai Gilgeous-Alexander en feu. L'ouest est plus relevé que l'est, d'où la question. OKC, est-ce que c'est meilleur que Boston? Alors, pourcentage légèrement plus élevé pour Boston. On va ajouter Cleveland dans ce débat qui a le meilleur bilan est-ouest confondu. Qui démarre? Qui se lance? Steve, t'as l'air chaud, t'as l'air de rigoler avec le producteur.
C'est que je sais pas quoi répondre à cette question.
Ah, alors c'est embêtant.
Je sais pas quoi répondre à cette question. Il n'y a pas eu de confrontation entre les deux équipes cette saison. Le meilleur rating défensif contre le deuxième meilleur rating offensif. Tout est complexe pour moi sur ce duel-là. Maintenant, je vais essayer quand même de répondre. Je vais dire Boston et je vais te donner quelques arguments. Pour moi, Tatum chez Gilgeous Alexander, ça peut se valoir. C'est les go-to guys de chaque équipe. Par contre, l'option numéro 2, pour moi, est plus forte du côté de Boston que
Jaylen
du côté
Brown.
De KC. Ouais. Pour moi, Jaylen Brown, c'est au-dessus de Jalen Williams.
Qui
pour
fait
le moment.
Un début de saison remarquable.
Oui, mais ce n'est pas suffisant pour matcher Jaylen Brown. Ensuite, OKC n'a pas les vétérans que peuvent avoir Boston, comme Al Horford, comme Jrue Holiday, qui ont une expérience de très haut niveau, qui ont une expérience de bague aussi avec Jrue Holiday. Et ils ont un Chet Holmgren qui est absent. Moi, je me pose la question, quand est-ce qu'il va revenir Chet Holmgren, parce qu'on sait que c'est une blessure plutôt sérieuse. Et que Boston a Chet Holmgren, c'est Kristaps Porzingis. Ils l'ont dans leur effectif.
Ouais, mais alors c'est pas garanti qu'en play-off ce soit pas l'inverse sur les infirmeries. Hein. Parce que Porzingis,
oui, très fragile,
Holmgren
mais il
devrait revenir.
Il joue la dernière, fait la diff hein, quand même. Porzingis en play-off, il a loupé beaucoup de matchs en saison régulière. Quand il est pas là, tu vois quand même. Alors déjà, Boston est une équipe hors norme, mais quand Porzingis est là, je sais pas qui
parce
peut matcher cette équipe-là.
Tu peux dire que le secteur intérieur de OKC est peut-être supérieur.
Ils ont profondeur de dingue en fait. C'est peut-être ça leur avantage par rapport à
Félix.
Boston. Boston qui peut peut-être être un peu plus court sur les rotations. T'as quand même Peyton Pritchard en sixième homme qui est monstrueux, mais sinon ça peut très vite être court. Porzingis, et ouais, il est monstrueux, mais en fait quand il est pas là, il est souvent pas là. Donc c'est ça le problème. Donc
Boston quand même. Avec Hartenstein, ça fait c'est solide quand même. Hein.
Oui, mais est-ce que Hartenstein est capable d'aller au large?
Non, mais ça leur fait deux options différentes, justement.
Oui, je suis d'accord. Mais le Porzingis, l'année dernière, il fait une saison aussi. Il est en train de faire la même saison qu'il fait l'année dernière. En fait, Porzingis, il est là, il n'est pas là. Il joue un match sur deux, très protégé par les Celtics, parce que je pense qu'il pourrait jouer un petit peu plus, mais que l'objectif de Boston, c'est plutôt avril, mai, juin, et qu'il soit présent et en bonne santé sur la fin. Maintenant, Porzingis, oui, il a souvent été absent, mais pour moi, c'est un mec qui fait la bascule dans cette équipe de Boston, qui passe d'un favori à peut-être une équipe imbattable, Porzingis.
Il fait la bascule, mais s'il est pas là, c'est compliqué. L'année dernière, en fait, Boston s'en sort pour moi en play-off parce qu'il y a un parcours, on le connaît, qui a été un petit peu plus facilité par les nombreuses absences à l'Est. À chaque fois, ils affrontaient des équipes qui étaient quand même un peu diminuées.
Cette année,
est-ce que tu penses, Stephen, qu'ils s'en sortent contre, imagine, t'as Cleveland qui continue,
Cleveland, je les vois pas matcher Boston.
Même sans Porzingis ?
Je ne vois pas matcher Boston. Ouais.
Moi non plus, pour le coup.
Peut-être moins catégorique que vous, il y a match quand même.
Moi, je pense que c'est deux styles différents, dans le sens où OKC, je pense que c'est une équipe qui va plus facilement être très régulière et être au-dessus de l'équipe adverse, là où Boston peut avoir des coups de chaud qui existent un petit peu moins, je trouve, chez OKC. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont capables d'artiller à Boston.
Tu as raison, OKC, c'est l'équipe qui a la plus grande marge de victoire depuis le début de saison. Ils sont à 12 points d'écart à chaque match.
Parce qu'ils ont ce côté basket moderne. Je trouve que ça représente l'équipe du basket moderne avec des rôles interchangeables, vraiment des postes qui sont pas très très marqué en dehors du poste intérieur où tu sais que c'est Holmgren et Hartenstein. Tout le reste après c'est interchangeable et ça marche bien. Ils peuvent défendre à peu près tous sur n'importe qui et ils savent quoi faire dans toutes les situations. Il n'y a pas un mec qui a un défaut dans le jeu très visible. Ah, peut-être Lugansdort qui a vraiment un rôle de gros spécialiste défensif dans lequel tu t'appuies un petit peu moins en attaque. Donc c'est...
Dort, il met ses 3 points hein, quand tu regardes.
Oui, voilà. Parce que c'est
pas le laisser tout seul dans le corner.
Il connaît très très bien son rôle, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué.
Ils n'ont pas mis contre la France hein, au JO. Par contre.
Mais j'ai envie de dire Boston sur un coup de chaud ça peut exploser au OKC, mais sur la régularité sur plein de matchs franchement ce serait une série qui avec beaucoup de suspense je trouve hein,
ouais. Après, donc, t'es partagé Sacha
après,
ouais,
vraiment. OKC très fort défensivement, c'est la meilleure équipe défensive, on l'a vu, on en parlera sur la NBA Cup, ils ont fait une presta défensive contre les Mavs, notamment contre mon équipe qui était très forte. Maintenant, est-ce que des mecs comme Lou Dort qui sont des chiens de garde, est-ce que Tatum finalement Lou Dort ou pas Lou Dort, est-ce que c'est pas facile pour lui le basket en fait,
est-ce qu'il va être capable, ça change rien qu'il est Dort ou pas, ouais. sur le palto,
j'ai quand même l'impression. Par contre OKC, okay, ils ont un garçon qui est hors norme, qui passe jamais à côté d'un match. Chez Gigus Alexander, un match moyen c'est 20 pions. Un match moyen, et j'ai même envie de te dire un match moyen c'est 25 pions en ce moment. Il avait débuté pas dire timidement, mais là, ce qu'il est en train de faire depuis un mois, c'est monstrueux chez Gilgeous Alexander. Il perd Chet Holmgren, il fait son record de la saison juste après. Il a des pourcentages hors normes pour un arrière. Alors, il prend pas beaucoup de tirs à 3 points, donc ça lui permet d'avoir des énormes pourcentages. Et puis, c'est un défenseur hors pair, et puis c'est un go-to guy. Maintenant, je vous le dis, ce côté expérience de Boston, moi, je les mets au-dessus, en fait.
Donc, le seul qui penche vers OKC, c'est toi, Félix hein.
Non, après j'ai quand même des réserves pour le coup. J'ai des réserves notamment sur Jalen Williams. Pour le coup, là je te rejoins un peu Stephen. Parce qu'en fait, oui, Shai.
C'est un joueur qui est en progression.
Non mais Shai,
il est incroyable. Mais en fait, je sais pas quelle est la limite.
Ça fait 3 ans, c'est sa troisième année.
En playoff, c'est qui l'option 2 offensivement en playoff derrière Shai? Si Shai en playoff coince
sur
un match.
S'il y a Chet Holmgren, ce sera peut-être Holmgren.
Moi je trouve que c'est le charme de Casey, il n'y a pas d'option 2. C'est qu'il y a Shai et puis après tout le reste ça s'ajuste et le numéro 2 ça
s'ajuste
en fonction du match. Moi je trouve que c'est ce qui est génial avec cette équipe.
Ça marche en saison régulière. Mais après en play-off,
OKC en play-off, c'était pas non plus ridicule.
Ouais, mais ils ont atteint leur plafond de verre l'année dernière.
Ils ont choc contre une belle équipe. Hein.
Oui, mais est-ce que cette équipe-là, à ce moment-là, elle est difficile à prendre, je pense. Tu étais d'accord,
pas
Steve.
Pas faux. Mais en fait, c'est deux salles, deux ambiances, OKC. Ouais. Tu l'as dit, t'as Shai.
Je vais vous dire
après,
un truc, Steve, il m'a dit, hors antenne, évidemment, que Dallas, quand ils sont chauds, ils sont imprenables, par personne.
Ah non, mais je pense qu'il a raison. Oui. Et t'as cette jeunesse d'OKC qui doit apprendre aussi.
C'est ça le titre, peut-être, Steve.
Inch'Allah.
Moi, je pense aussi Dallas sur une série peut battre vraiment OKC.
Mais côté série, ouais, l'expérience ça joue énormément. Je pense que c'est ce que veut dire Steve.
Quand on parle de l'attaque, il y a Shai et t'as un petit peu tout le monde. Jalen Williams, après t'as un petit peu. Ah, Boston, putain.
Oui, non, mais Boston,
c'est un calvaire.
Ce qui est impressionnant, c'est que ça vient de partout. Tout le monde,
51 tirs à 3 points tentés par match. Vous vous rendez compte ce que c'est 51 tirs à 3 points tentés par match.
Et surtout qu'il y en a beaucoup qui rentrent. C'est ça le
problème. Ça tombe partout. Derek White, le petit Babtou, là, Peyton Pritchard, il sort du banc. T'as envie de donner 50 centimes en lui disant à quelle heure le bus il part. C'est lui qui pilote le bus. Il vient, il te met 27, il te met 30.
Il vient avec sa mallette goûtée, tu sais.
Cette équipe, elle est affreuse à jouer, en fait. Elle est affreuse à jouer. Elle est très compliquée.
Ils ont même pas besoin d'avoir un banc ultra fourni. En fait, ils ont 3 3-4 mecs qui te font tourner tout le banc, Boston. C'est ça qui est ouf, c'est que, comme tu le disais, Félix, je pense que le banc d'OKC, il est beaucoup plus fourni dans la profondeur. Oui. Et c'est des, si tu fais l'addition, il y a beaucoup plus de qualité. Mais en fait, ces mecs qui sortent du banc à Boston, ils savent exactement quoi faire. C'est un truc de fou. Pritchard, c'est un des mecs les plus réguliers en sortie de banc. C'est un apport de titulaire à chaque fois.
Même Sam Hauser, il est intéressant quand il sort du banc.
Et pour vous, Cleveland n'est pas invité dans cette discussion-là.
Ah, OKC,
c'est au-dessus de Cleveland.
Ah oui, oui. Je pense quand même.
Ouais,
quand
je pense. Ouais.
Parce qu'ils ont jeu, oui.
Et la grande...
Ils ont chai, quoi.
Après, la grande différence, c'est que le bilan d'OKC, il est remarquable dans une conférence qui est très,
bah
très
oui,
forte.
C'est ça.
Boston joue dans la conférence Est.
C'est pour ça que la question se pose.
Où il y a
quand
beaucoup d'équipes un peu plus faibles. Ce que fait OKC en termes de bilan comptable, victoire, défaite dans une conférence qui est hardcore, ils ont joué que 4 équipes de l'Est. OKC sont à 4-0. Hein. Ils ont plié les petits, là, Orlando, allez, merci, c'est gentil, restez dans votre conférence. À l'Ouest, c'est la jungle. Et ils battent tout le monde, OKC. Mm-hmm. Mais c'était le cas aussi l'année dernière. Mm-hmm. Vous avez roulé sur la saison régulière.
Et par contre, j'ai une vraie question. Votre avis, là, m'intéresse, parce que moi, j'ai vraiment un avis tranché là-dessus. C'est sur Jalen Williams.
Bah, tu veux vraiment dire, pour vous, dire ton avis d'abord.
Est-ce qu'il est option numéro Il peut être option numéro 2 d'une équipe qui va loin.
Et donc, ton
pour
avis,
moi,
c'est quoi?
Pas du tout. Mais pas du tout. Pour moi, là, il a quasiment déjà atteint son plafond.
Ah
et
ouais.
Il progressera. Pour moi, il est au max de ce qu'il peut faire.
T'es d'une dureté absolue.
Et je pense que sur une série de playoffs, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, si Shai est dans un jour un peu moins bien, derrière qui prend le relais?
Comme l'a dit Steve, il n'y a pas de jour moins bien avec Shai. Hein.
Mais ça peut arriver en playoff. Hein. Une défense
avis,
qui s'adapte très bien.
Ton avis tranché et osé. Et osé, parce que Jalen Williams, c'est sa troisième saison dans la Ligue, donc il est encore frais, il est encore jeune. Si c'est son plafond, déjà, c'est un joli plafond. Hein. C'est un plafond au salon cathédrale qui est quand même à 5-6 mètres de hauteur.
C'est pas un plafond d'option 2 offensivement pour une équipe qui gagne
une bague. Mais qu'est-ce que pose une option 2 en NBA? Parce que si on sort de Kyrie Irving, etc.
Jalen Brown.
Les deux mecs, les plus chauds, mais moi,
Jalen Williams, c'est hors norme ce qu'ils ont en magasin.
Non, mais c'est surtout que Jalen Brown, on pensait qu'il avait atteint son plafond bien plus tôt que Jalen Williams. C'est au final,
Après, on peut faire un listing. Quelles sont les deuxièmes options à Cleveland? Darius Garland?
Ouais.
Darius Garland est meilleur que Jalen Williams?
Mais pour moi, juste Cleveland, je ne les mets pas du tout dans la discussion.
Non,
c'est pour ça.
En dehors de
deuxième option de Jalen Brown,
Kyrie Irving. C'est pour ça que Dallas, pour moi, aussi.
La deuxième option à Denver, Jamal Murray. Jamal Murray, c'est vraiment meilleur que Jalen Williams cette saison?
Cette saison, non. Non, non. Mais c'est pour ça que ça fait que les Nuggets ne sont pas candidats.
C'est pour ça que c'est un vrai numéro 2. Moi, je pense que c'est le profil idéal du lieutenant. Comme
l'année où Denver va gagner le titre.
Parce qu'en fait,
je pense qu'il est même moins unidimensionnel que
Fred Bates nous saoule souvent avec ça. En fait, Boston, ils ont presque deux numéros 1.
Ah bah oui.
C'est ça la différence.
C'est vrai.
Donc, toi, tu compares en fait avec un binôme où tu as deux numéros 1. Donc, c'est sûr que Jalen Williams va peut-être pas tenir la comparaison.
Mais quand tu as toutes les équipes qui vont loin,
mais est-ce qu'au final, tu as besoin d'un Jalen Williams aussi fort que Shai? C'est impossible.
Non,
en vrai.
Pas si fort.
Après,
une option 2 qui tient la route offensivement.
Après, Jalen Williams, il faut quand même lui donner un peu de crédit. Chet s'est pété, il a joué big man.
Ça, c'est vrai.
Quand Shai était out, il s'est retrouvé poste 5, il a quand même
il
assumé.
Bon.
C'est quand même
il est quand même à 21 points de moyenne.
C'est un garçon qui fait beaucoup de choses sur un terrain.
Il fait tout. Il a pas
troisième année, s'il est déjà à son plafond, c'est sévère, Félix.
Moi, j'ai ce sentiment-là quand je le vois jouer. J'ai l'impression qu'il vraiment,
non, moi,
il est
max. Je pense que tu l'aimes pas. Vraiment, je pense que tu l'aimes pas parce
pour
que
le, coup, il est
le
super...
mec est bon en attaque, le mec est bon en défense, il fait des passes, il prend des rebonds, il y a aucun défaut, même statistiquement, même dans le jeu, il y a rien de mauvais chez
sa
ce mec-là.
Sa polyvalence est monstrueuse et même défensivement et tout. Moi,
mais
je te parle vraiment. Je parle offensivement, tu vois.
Mais sur quoi?
En termes de juste mettre des paniers et genre vraiment
pouvoir bucket. Donc
avoir
par match, c'est mettre des paniers, c'est compliqué.
Mais ouais,
non,
c'est
attends Félix, c'était
et l'année dernière, il a prouvé justement contre Dallas.
Mais l'année dernière, toute l'équipe se plante entre guillemets contre Dallas parce que c'est une équipe jeune, parce que c'est une équipe qui doit se confronter à des murs et à des équipes d'expérience pour apprendre. Là, je veux dire, en milieu de saison régulière, Jalen Williams, c'est un mec, on l'attend jamais à ce niveau-là. C'est une merveille ce type, c'est un miracle pour cette équipe, faut le dire quand même.
Et alors, dernier mot, mais qui va, je pense, être réglé rapidement si on se souvient de l'épisode de la semaine dernière. Est-ce que Shai entre dans la discussion pour être MVP?
Ah oui, clairement.
Oui, mais parce que la semaine dernière, vous avez dit, bon, Jokic règle tout problème. Quoi.
Pour moi, là, c'est le MVP pour l'instant.
Après, il va y avoir...
Ah, Félix, c'est le MVP.
Là, je ne suis pas un Thunder hater, hein. je suis juste...
Non, mais c'est un hater.
Après, Jokic, il faudra voir un...
Puisque la semaine dernière, on avait un spécial Giannis.
Où Denver va finir dans le classement pour Jokic. Au-delà de la sixième place, ça me paraît compliqué qu'on file le quatrième MVP à Nikola Jokic.
C'est un spécial Oklahoma City Thunder et on enchaîne sur la finale de la NBA Cup.
Gentlemen, the NBA Cup final matchup, it is set. We're going to see the Oklahoma City Thunder taking on the Milwaukee Bucks.
Dort with another three. Lou Dort has a beautiful connection there. Williams to Hartenstein.
But it's a competitive NBA Cup. Tempers flaring out there. In the end, just a little too much from the Thunder. They get the win and advance to the finals to take on the Bucks. 111-96.
Oh, nice crossover. Goes inside. Out to Williams. Williams a three. Gets the bounce and goes through.
Milwaukee continues to roll in the NBA Cup. Damian Lillard delivers in the clutch. And the Bucks win it 110-102.
Alors cette petite voix qu'on a entendue au début de l'illustration sonore, ça me donne envie de manger mes céréales parce que c'est la voix qui m'accompagne tous les matins au petit-déj. C'est le gars qui fait tous les gros résumés. Vous l'avez reconnu sa voix ou pas?
Il
est très très bon.
Il a une voix
exceptionnelle. Ouais, il te donne envie de, je sais pas, il te remet un suspense
même sur les trucs de merde. Oui,
dans un résumé, il te remet un suspense. Ouais. Ils sont forts les Ricains quand même. Hein, on se le dit à chaque fois, mais c'est vrai. On va quand même dire un mot de ce match, de cette finale entre deux des équipes en forme du moment, les Bucks et le Thunder. C'est à 2h30 du matin ce mercredi. Et ensuite, je vous poserai la question, est-ce que vous êtes séduit, conquis par cette NBA Cup? L'autre, il me regarde du coin de l'œil.
Ah non.
Sacha.
Moi?
Non, mais c'est vrai que c'est chelou, ces compétitions.
Ah non, moi j'adore.
Mais parlons d'abord de la finale. Qui est votre favori entre Milwaukee et Oklahoma City, Félix?
J'ai envie de mettre une petite pièce sur Milwaukee quand même.
Alors, pour la dynamique?
Bah parce que sur un match comme ça couperait, un Giannis Antetokounmpo me fait dire que il va sortir les crocs. Il aime les matchs comme ça. Quand tu le voyais justement là à la demi-finale de cette NBA Cup, il y avait 7-0 à un moment donné au début du match. Donc on jouait depuis 3 minutes. Il était en train de se taper sur les pecs et tout. Pour moi, ce genre de match, c'est des matchs
pour
Giannis. Ouais, je pense. Même donc, si non. Donc OK, si est meilleur comme ça, mais sur un match, vraiment un peu la magie de la Coupe de France, tu vois.
La comparaison est un peu dure.
Bah, c'est pas la même salle qu'au fin fond de la Bourgogne non plus.
Mais Stephen.
Ouais. Bah, moi j'ai un problème avec Milwaukee. Alors certes ils sont très bons, mais qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses à avoir joué au basket.
Ah ça.
Ouais, je suis d'accord.
Wow. Damien Lillard, il faut se pincer hein, des fois pour regarder Damien Lillard.
Merci Toto Doc, hein. Doc Rivers.
Ouais. Après Giannis, le problème c'est que ce match-là, il est dépendant de Giannis. Si les Bucks gagnent, c'est que Giannis est monumental et il est capable de l'être.
Il l'est, hein, en ce moment.
Il est capable de l'être. Et le problème, c'est que je ne vois pas, on parlait des qualités défensives de Casey, je ne vois pas qui dans leur roster est capable de défendre sur Giannis Antetokounmpo.
Bah, de toute façon, personne ne l'arrête.
Qui dans la ligue,
ça aurait dû être Chet.
Parfois, il met des paniers à 1-4.
Oui. Hartenstein a envie de s'y coller et qu'il est en foul trouble, c'est la fin d'OKC. S'il ne peut pas jouer beaucoup de minutes, c'est terminé pour OKC. S'ils mettent un petit sur lui, c'est terminé.
Est-ce qu'ils ne peuvent pas juste être punis par leur un peu leur désorganisation globale, les Bucks, ouais.
Si,
parce que les autres, c'est clinique quand même, ouais. OKC. Et eux, c'est parfois un peu bordélique.
Ça part dans tous les sens.
Les Bucks. Donc, est-ce que dans un vrai match, une finale, alors, ils ont été énormes en demi hein, contre les Hawks, hein, pas de problème. Mais est-ce qu'ils peuvent pas être punis par un basket finalement plus maîtrisé?
Bah, moi, je pense que si. Concrètement, on l'a vu contre les Hawks, ils ont failli revenir plusieurs fois dans le match. Et pour le coup, ils étaient encore plus dégueulasses.
C'est pour ça que t'aimes bien l'NBA Cup,
les Bucks, pourquoi?
Parce que c'est le moment où Atlanta peut aller loin, en fait.
C'était juste pour la célébration de triomphe sur les Knicks, tu sais. Non, mais.
T'as remarqué un truc, je fais une parenthèse.
Vas-y.
Les Hawks, les gars, ils ont tous le même look.
Mec, oui. Moi j'ai un vrai problème. Hein. Rizaché, Jalen Johnson, je sais pas qui est qui.
Et Dyson Daniels.
Oui,
c'est un truc de ouf.
C'est dur.
Hein. En plus, c'est un look, il n'y a que qu'on se look là, ouais, grand, ouais. Fin, clair, avec beaucoup de cheveux.
Il n'y a que Bogdanovic, je sais qui c'est.
Non, mais moi je pense que le basket doit gagner. Et le basket, c'est OKC. Je pense qu'une équipe qui est emmenée par Doc Rivers, normalement, dans un match couperet, elle se chie dessus parce que c'est ce que Doc Rivers fait à chaque fois. Donc non, mais je pense que quand il y aura des vraies problématiques d'ajustement au milieu d'une finale ou d'un truc comme ça,
c'est plus un souhait qu'un pronostic.
Non, mais moi mon pronostic, c'est que je pense qu'OKC, c'est important pour eux de prendre ce titre-là et justement de montrer qu'ils sont devant une équipe avec superstar,
avec
etc.
Avec un match à 36, 8 et 10 de Shai et c'est réglé, quoi.
Bah, c'est ça, après. Donc après, je pense qu'Yanis va les poutrer, mais je pense que Lillard peut passer au travers.
Yanis va faire un carton. Après, la problématique de Damien Lillard, c'est que depuis le début de saison, tous les meneurs adverses font des cartons sur lui. c'est qu'il c'est compliqué défensivement. Et là, c'est pas n'importe quel meneur. Ouais. C'est un top 3 scoreur de la ligue. Donc, il va falloir que Damien Lillard se mette le cul par terre pour justement limiter.
Et en est-il capable ?
Et en est-il capable ? Et après, de l'autre côté, il faut que Milwaukee soit dans un jour d'adresse impressionnante. Il faut que Bobby Portis filoche comme il est capable d'en faire de temps en temps. Il faut que
Brook Lopez... aussi un match pour Bobby Portis, oui. Ce genre de match, il faut grosse ambiance.
Il faut que Brook Lopez soit capable de filocher aussi. Il faut que Gary Trent Jr. soit dans un bon. Mais le problème de OKC, c'est tout est bien structuré, tout est bien propre. Tu sais ce qu'ils vont faire. Tu sais où ils veulent mettre le ballon. Chaque play est intelligemment annoncé par Shea en fonction de quels avantages ils ont. Et Milwaukee, c'est la Giannis en dépendance, mais il est capable de le gagner lui tout seul. Hein, Giannis.
Ah, il y a le retour quand même de Chris Middleton depuis quelques semaines, quelques matchs, qui peut faire du bien en termes d'organisation, de QI basket, de trucs. C'est quand même...
Après, tu dis ils ont besoin de ce titre, OKC. Est-ce que c'est un vrai titre ? Franchement,
pour une franchise qui est en totale reconstruction depuis 5 ans et qui a débuté un cycle avec des joueurs draftés et tout ça, l'accomplissement d'un trophée, ça fait du bien. Marc Degnaud, Sam Presti, voilà, au moins on a été récompensé, on a traîné dans les bas-fonds de la NBA pendant X années, là on est tout en haut, ça fait du bien, Pierrot, de mettre un truc dans une armoire. Quand même.
C'est un petit palier vers là où ils veulent être, c'est la bague NBA. C'est un petit palier, quoi.
C'est une consécration pour une équipe qui est jeune, qui veut se souder, tu vois, de connaître la gagne ensemble, de connaître quelque chose, d'avoir ces souvenirs-là et d'attaquer la deuxième partie de saison avec ça. C'est ce qui, je pense, manque
un peu. Et puis l'expérience d'un match en jeu, c'est un vrai match en jeu. Ouais, les playoffs, c'est
comme un match de playoffs.
Oui, mais sauf que. C'est quand même important.
C'est une finale à l'européenne presque.
En magasiné de l'expérience sur un match en jeu, c'est important.
Est-ce qu'elle vous plaît cette compétition là, cette NBA Cup ?
Moi, je kiffe de ouf.
Ouf carrément.
Ah ben moi, ça me redonne de l'intérêt sur cette période de l'année qui normalement n'en a aucun en NBA. Après, le seul truc, c'est que c'est pas le format je trouve le plus lisible de la terre.
C'est incompréhensible.
Faut comprendre que les matchs de poule, c'est certains jours de la semaine, mais tu le captes avec le design, etc. Même si j'avoue les parquets, j'ai du mal un petit peu.
Ils sont moches, mais ils sont identifiables.
Ouais, mais au moins dès que tu sais que c'est un
je suis d'accord.
Ça, c'est sûr.
C'est avantageux.
Le côté Vegas peut faire grincer des dents aussi, même si ça apporte un côté terrain neutre que j'aime bien. Moi, franchement, ça match couperet comme ça, j'ai kiffé. Bon, après, les Hawks étaient dedans, donc je suis pas objectif du tout.
Il y a tout le début, en fait.
Ouais, c'est vraiment à partir des quarts de finale. Ouais, c'est ça. On va pas se. Que toi.
Il y a eu deux demi-finales fantastiques.
Ouais, on va pas se mentir.
Avec
tout
une vraie intensité,
avant,
un vrai suspense.
On s'en fiche, on regarde pas. Vraiment, on commence à regarder à partir des quarts de finale de tiens, il reste qui ? Et c'est à partir de là qu'on regarde un peu le tableau et qu'on se dit bon, on va s'y intéresser.
Moi, j'aime bien regarder à partir des quarts de finale, j'aime bien regarder les attitudes des joueurs. Et quand tu vois sur les quarts de finale et demi-finale, tu vois que c'est pas les mêmes attitudes. Défensif, t'as des mecs qui défendent pas un cachou toute l'année sur des matchs de saison régulière. Là, tu vois.
Même Trae Young.
Trae Young, il défendait comme un ouf.
Tu vois des séquences défensives, tu vois même dans les comportements après un panier marqué, après un N1, ça sert le point, le banc debout. Il y a un vrai enjeu.
Après, est-ce qu'il joue pour le sportif ou pour l'argent ?
Les deux.
Parce que c'est très doté. Hein.
Si t'es Steph Curry, tu joues pour le sportif. Si t'es Prodziemski de Warriors, tu joues pour les 500 000. Et puis, je pense que les superstars ont envie de gagner pour récompenser les gamins qui ont des petits contrats. Donc,
après, il y a juste un truc, moi, qui me dérange. Honnêtement, bon, le tableau final c'est top et je suis d'accord avec vous sur les matchs où on a vu des vrais matchs et tout, mais ce qui me dérange en fait c'est que c'est une vraie dérive du sport qui s'arrête jamais en fait, du sport business, c'est-à-dire saison est chiante. Tu me rajoutes une compétition à l'intérieur de la saison qui en fait n'a aucun sens parce que à la fin le vrai champion c'est celui du mois de juin.
Je te rajoute pas de match, au moins j'ai transformé des matchs nuls en des matchs
comme comme la Ligue des Nations.
Moi je suis pas d'accord, je pense que c'est justement l'inverse même, et c'était un de mes arguments pour défendre un peu cette NBA Cup, c'était que ça donne du repos aussi à pas mal de joueurs. On le voit sur je sais pas si
ça
vous
fait un peu moins de matchs.
Non mais dans nos fantaisies, on le voit qu'il y a plein de matchs
qui sont pas qualifiés, il y a des trous. Après Pierrot,
mais même cette semaine, il y a des trous là.
Après on s'est souvent plaint de cette formule NBA où que tu passais 6 mois à faire une saison régulière pour un seul vainqueur et un seul trophée, ce qui était parfois injuste pour des équipes qui faisaient des belles saisons régulières. Mmh. Alors qu'en Europe,
bon, t'as quand même le titre de champion de conférence.
Oui, mais c'est enfin oui. Alors qu'en Europe, t'as par exemple au foot, t'es champion de France, t'as la Coupe de France, et t'as des équipes qui se qualifient en Coupe d'Europe qui peuvent. Mais je trouve que c'est bien, ça remet de l'intérêt. On s'est souvent plaint de la morosité de la saison régulière et des matchs qui n'avaient pas d'enjeu, un petit peu de piquant sur un mois et demi. Je trouve que ça fait du bien.
Et les joueurs kiffent. Hein. Yanis, il a dit que justement, ça le rappelait le Final Four EuroLeague où il était venu.
Sauf l'ambiance.
Non, à Las Vegas, c'est compliqué.
Je pense quand même que, alors pour les Bucks, ça leur a fait un bien fou. Je pense que ça, c'est une des raisons de leur renouveau, parce qu'ils se sont retrouvés peut-être un peu par hasard dans le game. à pouvoir aller chercher un titre, je pense ça a accéléré leur renouveau.
Gagner deux matchs de poule, se dire finalement, si on gagne un troisième, on est qualifié pour les quarts et on y va. Oui, ça a donné un peu. Ça a donné
au moment où Chris Middleton revient, et je pense que tout ça a accéléré un peu leur
plusieurs équipes. Les Hawks, pour ne pas revenir sur eux, c'est un peu le.
Mais les Hawks, c'est une bonne équipe.
Oui, mais là, leur série de matchs, elle correspond avec ce qui se passait en NBA Cup, en fait, quand ils enchaînent les victoires.
Richard Shea. Ils ont du mal à le dire.
Ouais, grave.
Par contre, il faut qu'on cite Houston quand même, parce qu'on a cité toutes les équipes, et Houston qui était demi-finaliste, qui valide aussi un petit peu le nouveau projet des Rockets avec Ime Udoka. Donc c'est bien de voir une équipe avec des jeunes joueurs et des joueurs un peu expérimentés aller au bout. Donc Houston, ils m'ont régalé aussi.
Et d'ailleurs, il y avait un bon gros seuil, une bonne grosse amertume à la fin sur le scénario sur la fin du match, où tu voyais que justement c'était pas qu'un match de régulière où voilà, t'as une défaite de plus, mais après tu passes à autre chose. Là vraiment, ils étaient dégoûtés. T'as eu des déclats après. Et puis au tour d'avant, même les Warriors, Steve Kerr, je sais pas si vous avez vu, pendant 3 minutes, il désingue
l'arbitrage sur la dernière action de Houston Warriors. Et
tu vois jamais ça sur d'autres matchs réguliers.
Et puis tu t'aperçois que les Knicks sont des chokers en clair, même en NBA. Parce que quand tu reçois au Garden un quart de finale Atlanta, et t'es pas capable de gagner pour la Vegas quand même.
Bon, ouais, donc bilan positif pour la NBA Cup dans Basket Time. On enchaîne avec la partie historique.
For Seattle, they were introduced just moments ago. Gary Payton, runner-up defensive player of the year. Three up and in! Oh, it's Taylor now! Ray Allen has got some mojo! Westbrook going to go right at Aminu and scores! Another triple for Gary Payton. Westbrook at the three-point line, scores it!
It's rejected by Ibaka.
Westbrook explodes and scores! It's a five-point game!
Picked up by Ibaka. With a terrific rebound in the putback.
That's the three, got it. Ray Allen with a three-pointer. His sixth of the night. He has 33 points. Turnaround three for Gary Payton. Oh, baby. And Sean Kemp on the way back gives him a low. Rip-rap alley with a
boom. Alors, c'est un spécial OKC Thunder. Donc, pour les plus jeunes, c'est une franchise historique qui était les Seattle Supersonics. Donc, on a traversé les États-Unis. Hein, on n'est plus du tout dans la même culture. Les couleurs ont changé. Tout a changé, mais c'est la même franchise. Vous allez donc me faire le 5 all-time de la franchise en incluant les Seattle Supersonics et le Thunder. Il y a beaucoup de grands joueurs, notamment sur les postes arrière. Il va manquer un pivot, hein. Vous allez peut-être fouiller dans les archives pour trouver un pivot, mais Payton, Harden, Westbrook, Shai, Ray Allen, Gus Williams, après vous avez des joueurs qui ont peut-être moins marqué la franchise, mais Paul George, vous avez des Kevin Durant, Lenny Wilkins, Rachel Lewis, Detlef Schrempf, Sean Kemp, et donc pour le pivot, je vous laisse vous démerder. Donc qui commence? Qui est sûr de son coup? Parce qu'il y a des vrais choix à faire, il y a des grands joueurs à laisser sur le côté. Ouais. Qui démarre?
On fait poste par poste.
Allez, vas-y, Félix, tu me donnes ton 5.
J'en ai 5.
Tu me donnes ton 5, mais tu peux argumenter comme tu veux, hein, d'un coup ou poste par poste.
Ok, bah, Russell Westbrook, je pense au poste de meneur, poste 1, un peu une évidence, c'est le meilleur scoreur.
Une évidence pour toi?
Ouais. Franchement, je vais le voir après avec mes camarades.
Non, mais parce que t'es jeune, c'est tout. Mais
meilleur score.
Je crois que c'est une évidence solitaire.
Parce que Gary Payton ne va pas être content quand même. Hein.
Du coup, je me suis arrangé un peu pour Gary Payton.
On y arrive.
Et j'ai des arguments. Chaque chose que je vais dire.
Vas-y.
Russell Westbrook, top 1 scoreur de l'histoire de la franchise. C'est 18 859 points exactement, devant Gary Payton qui est deuxième. Il fait 11 saisons au Thunder. Il est MVP en 2017 après une saison complètement historique où il va chercher le titre de MVP alors que OKC était 6e. Il fait une saison où il est en triple-double de moyenne. Et au niveau des triple-doubles, c'est 138 triple-doubles dans sa carrière juste avec le Thunder. Donc monstrueux. Je me suis arrangé un petit peu pour le backcourt. J'ai décalé Gary Payton au poste 2. Pour moi, clairement, on connaît les qualités défensives du garçon. Franchement, mettre un Gary Payton sur l'arrière adverse, je pense que tout le monde va être d'accord sur le fait que ça peut fonctionner.
Sauf s'il fait 2m4, l'arrière adverse.
Gary Payton, par contre, il est premier au nombre de matchs disputés avec les Sonics. Il a été top 3 du MVP en 98 et surtout il est finaliste 96. C'était du coup l'avant-dernière finale avant celle de 2012. C'est perdu contre les Bulls, contre Michael Jordan. C'est arrivé à d'autres gens très bien. Mm-hmm. Donc pour moi, voilà, Gary Payton en 2, je pense que sur le backcourt, ça fonctionne plutôt bien.
D'accord. Ensuite, enchaîne. 3, 4, 5.
Kevin Durant en poste 3. Je pense que là, pour le coup, messieurs, il y a peut-être une évidence, non? Ou alors vous allez mettre peut-être Jalen Williams, je sais pas, en 3.
Il vous chauffe.
Mais je souhaite tellement qu'il fasse une carrière de foot, Jalen Williams, c'est aujourd'hui.
C'est bon. Félix, il a trouvé sa place et il vous chauffe.
Bah, pour aller chercher Kevin Durant.
Chauffer Sacha, c'est dangereux. Peut-être encore plus que de chauffer Stephen. Hein.
Poste 4, je mettrais plutôt un petit Sean Kemp, pareil, époque Sonics avec Gary Payton. Lui aussi, il était finaliste en 96. D'ailleurs, cette finale 96, il était meilleur marqueur et meilleur rebondeur des Sonics, donc bonne petite finale.
Et pour
moi, le poste de pivot, pour moi, j'ai trouvé quelqu'un aussi qui est un peu comme une évidence, c'est Jacques Sigma.
Ah, alors j'allais vous le proposer, mais je ne connaissais pas en fait. J'ai vu que c'est le pivot du titre.
Exactement, c'est le seul titre des Sonics, champion en 79. Cette année-là, il tourne à 16,15 rebonds sur la finale contre les Washington Bullets, donc c'est quand même pas mal. Il est numéro 1 rebondeur all-time des Sonics, il est numéro 5 en termes de points marqués, il est numéro 6 en termes de matchs joués. Et comme sur les au niveau des pivots, il n'y a pas non plus beaucoup de choix. Je pense que c'est un peu une évidence. Et comme ça, je trouve qu'avec mon 5 aussi, on a un peu les trois époques fortes de Sonic Thunder qui sont représentées.
Je vous pose une colle.
Le titre de 79, la finale de 96 et la finale de 2012.
J'ai peur de Pierre.
Non, mais vous avez. J'ai pas la réponse en plus. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on peut passer pour des vrais pimpins. Est-ce que Luke Sigma, c'est un rapport avec Jack Sigma? Personne ne sait. On passe à la suite. C'est sûr?
Oui, c'est certain. Okay, à 300%.
Merci. Parce que je ne connaissais pas Jack, donc j'ai vu ce nom, je lui disais, on connaît
Sigma, le joueur d'Alba Berlin. Oui, son fils.
Ok, très bien. En fait, le problème, c'est que Sacha et Félix ne connaissent pas Luke Sigma.
Si, moi, ça me parle, mais je ne voulais pas me lancer.
Mais pour le coup, le lien de parenté, moi, je ne pouvais pas
le neveu de Kai Milling, qui était coach de Limoges.
Oh, bah, parfait. Voilà pourquoi on est le podcast numéro 1. Bon, pas du tout numéro 1, mais on devrait. Sacha.
Yes. Alors moi.
Est-ce que tu es d'accord avec Félix?
Non,
t'as
comme
pas le même.
Mais non, j'ai pas le même. Moi, le meneur Russell Westbrook, bon, il y a pas de sujet, je vais pas.
Il y a pas de sujet?
Ouais, il y a pas de sujet.
Ouais,
pour
mais
moi.
Vous êtes complètement ma boulox.
Non, mais après Payton,
il y a un sujet, je vous dis pas.
Il prend son titre avec Miami, c'est bien pour lui, donc voilà.
Comment il respecte pas les gens.
C'est un grand malade.
Non, mais quitte à, si je dois prendre vraiment les deux purs meneurs d'OKC entre Payton et Westbrook, bah je suis désolé, Westbrook, ce qu'il fait, c'est incroyable. Après, je mets beaucoup de respect sur Payton. Et poste 2, je mets Ray Allen du coup.
Ah,
parce que
bah, merci,
quand même.
Merci.
Bah, qui a représenté la franchise pendant toutes ces années un peu Bresson, etc.
Merci.
On a bien vu après
Bresson,
son départ que c'était
Bresson,
beaucoup plus compliqué. Hein.
Bresson.
Ah, Bresson.
Non, Ray Allen, il
est. Bresson pour de vrai. Hein.
Oui,
je crois que c'était une référence que j'avais pas. Ces années Bresson. C'est un coach.
Ouais. Les années Jalen Bresson.
Non, mais par contre, merci pour Ray Allen.
Bah oui.
Parce que tu sais, moi, c'est le premier mec que presque j'aurais mis. Hein.
Ce maillot vert et jaune, Super Sonics, tu vois, l'évolution des Sonics, c'est incarné par Ray Allen quand même. Donc moi, ça m'a marqué et je suis obligé de le mettre là parce que pour moi, les Sonics, ça rime avec Ray Allen. Poste 3, Kevin Durant. Bon, je vais pas rouvrir la page là-dessus. Poste 4, j'ai quand même mis Rashard Lewis. Ah. Parce que ça me rappelle aussi l'époque un petit peu Ray Allen, etc. Avant qu'il parte du côté d'Orlando, qui était un poste 4 un peu en avance sur son temps, bon shooter. Tu vois, tu le mettrais aujourd'hui en NBA, ce serait pas un joueur dégueu, je pense, Rashard Lewis. Bon, peut-être pas le plus athlétique, mais il aurait des dans le jeu avec le spacing d'aujourd'hui, ce qui fait qu'au poste 5 je suis obligé de mettre Sean Kemp. Okay. J'avais hésité avec Robert Swift,
une bizarrerie un peu, mais
hein,
ouais, alors ils en ont eu des pivots dégueulasses, hein. Nick Collison, il y en a eu un des...
Alors j'avais mis 6e homme Nick Collison, donc c'est super gentil pour lui parce que c'est quand même
non,
un symbole la franchise qui a son maillot retiré,
toute proportion gardée quand tu fais un 5 all time.
Oui,
parce que t'as des franchises, je veux dire aux Lakers pour choisir le pivot, c'est solide quoi.
Je te rejoins là-dessus et bon, je compte sur
là,
le côté
entre Collison
Sean Kemp à l'ancienne
qui tu nous as sorti toi.
Ah, j'avais mis d'avant. Robert Swift, mais ouais, qui était Robert en fait, c'est une blague parce qu'il était vraiment nul.
Il l'a trouvé dans sa baraque.
Il nous manque donc le 5 de Steve.
Écoute, la main, c'est Gary Payton. Je crois que c'est le seul meneur à avoir été élu défenseur de l'année. Donc déjà, ça classe un bonhomme. 9 fois dans le meilleur 5 défensif. Et puis, cette finale face aux Bulls. Et puis, dans The Last Dance, il y a ce petit trash talk Jordan Payton.
Oui, et puis il a quand même réussi à le pousser dans ses retranchements.
Voilà,
hein.
où la légende dit que quand Payton est venu défendre, il y a eu un ajustement du coaching.
Parce que si Jordan a trouvé quelqu'un pour le matcher, c'est bien lui quand même.
Oui, enfin, ça, c'est la version des Sonics. La version de Jordan, c'est que, bon, peu importe qu'il y avait, même si c'était Gary Payton, il ne l'a pas vu. Quoi. Mais bon, dans les chiffres,
On sait qu'il se motivait en se mettant des défis pour détruire un mec. Et Peyton en a fait partie.
Oui, oui. Gary Payton, c'est aussi le quatrième meilleur intercepteur de l'histoire. Donc voilà, moi j'ai envie de mettre Gary Payton parce que l'époque Sonics.
Devant Westbrook.
Voilà, et puis Grand Bush, The Glove, son surnom. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis Ray Allen aussi. Parce que c'est 5 petites saisons. C'est pas énorme non plus avec les Sonics, mais c'est 11e meilleur scoreur de l'histoire. Ça veut dire qu'il a fait des cartons. Il a fait son record en carrière sous le maillot des Sonics avec 54 points. C'est la deuxième plus grosse perf de l'histoire de la franchise. Record de nombre de tirs à 3 points inscrits sur une saison. Voilà, Ray Allen, c'était la classe incarnée. Et puis, cette époque-là, il avait encore du jus. Il mettait des bons petits tomards.
Joueur incroyable, joueur exceptionnel, ouais, Ray Allen.
Kevin Durant, bon là je vais pas m'étendre très longtemps, hein, une finale NBA, un titre de MVP en 2014, meilleur scoreur de la franchise en moyenne, 4 fois meilleur scoreur de la ligue.
En fait, ce qui est pratique avec Durant, c'est qu'il représente cette période et que du coup tu peux te passer de Harden et Westbrook.
Il a joué avec les deux maillots, avec Sonics et OKC. Je vais prendre Sean Kemp, c'est un garçon qui a 8 saisons à Seattle, drafté directement à sa sortie de high school. C'est un peu dommage parce que je pense qu'une ou deux saisons à la fac, ça leur a donné un petit peu le plomb dans la tête. Et l'apprentissage de la vie, parce que c'est un garçon qui a très mal fini et qui aimait bien la bibine, mais c'est un mec qui est 5 fois All-Star. Je vous conseille d'aller regarder les highlights de Sean Kemp, parce que si les dunks que vous avez à l'époque, en 90, s'il les fait encore là, à notre époque, vous savez, le matin, je pense que tout le monde se lève du canapé. Un mec juteux, et puis la connexion Payton-Sean Kemp, tous ces alley-oop, là où Payton il jetait le ballon comme ça à une main, à deux mains, et Sean Kemp arrivait pour tout arracher. Il y a ce dunk à deux mains où il ratterrit sur les épaules de Dennis Rodman en finale NBA qui est quand même une image marquante. Et j'ai fini par Jack Sigma aussi parce que il fallait rendre hommage à une génération qu'on n'a pas forcément connue, mais un pivot avec des pourcentages.
Et puis c'est vraiment une franchise qui manque de pivots marquants.
Exactement. Et puis plusieurs fois meilleur rebondeur de la ligue. C'est quasiment 11 rebonds de moyenne sur son passage à Seattle. 7 fois All-Star. Donc voilà, Jack Sigma.
Parfait.
Donc de Russell Westbrook pour toi.
Pas de Russell Westbrook pour
ça,
moi.
Ça te vénère ça.
Moi je me suis fait la réflexion et en vrai, question pour toi, quand tu penses au Thunder, tu penses d'abord à Westbrook ou à Durant ?
Je pense à James Harden.
Ok. Qui n'est pas non plus dans ton 5.
Qui n'est pas non plus dans mon 5.
Mais moi, pour le coup, quand je pense au Thunder, pour moi, le visage de la franchise, c'est Westbrook.
C'est un très bon argument.
Je trouve.
C'est un très bon argument, mais il y a un vrai match. C'est-à-dire que tu as en face une autre légende, en fait, mais qui est peut-être plus légendaire en NBA. C'est-à-dire peut-être qu'il y a match nul sur la franchise entre Westbrook et Payton. J'ai l'impression quand même que Payton marquera plus les esprits.
Le problème de Payton, c'est que c'est génération de Jordan.
C'est génération de Jordan, mais Westbrook n'étant pas champion, il y a pas, tu vois.
Il prend
pas le pas là-dessus.
Ouais, mais Payton non plus, il ne l'est pas.
Oui, mais justement, ça lui permet pas de prendre
MVP Westbrook, quoi.
Les MVP, ouais. Si vous voulez, ouais, si vous voulez.
Bah, je pense qu'il Westbrook a plus une dimension à prendre une équipe tout seul qu'un Payton. Après, c'est Payton, ce qu'il fait,
Après, OKC a eu, selon moi, à un moment donné, une des plus belles équipes de la ligue. Quand tu avais James Harden, 6e homme, quand tu avais KD, quand tu avais Serge Ibaka, quand tu avais Russell Westbrook, quand tu avais Thabo Sefolosha, c'était une équipe qui était kiffante à avoir joué.
Steven Adams,
une équipe, elle est folle.
Et d'ailleurs, Ibaka peut pas être le pivot du 5 all-time. C'est pas assez fort.
Il m'a déçu, moi. Je pense que c'est un des mecs.
À partir du moment où il a pris le passeport espagnol, pour moi c'est fini.
Non mais vraiment. t'as complètement raison parce que c'est le moment où il commence à arroser
avec
ses bides. N'importe quoi.
Très bien, allez, c'est l'heure du quiz.
Le sport co permet de côtoyer des gens avec des caractères totalement différents et ce qui est bien c'est de cet assemblage de caractères forme une équipe.
Voilà, écoute, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au basket. Voilà, c'est comme le vélo, j'ai l'impression. C'est vraiment très facile.
C'est quoi les stats ?
10 minutes, j'ai pas joué beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de rotation. Ouais. 18 points, 3 sur 5 à 3 points, 7 rebonds, 2 interceptions. 2 interceptions, c'est mon career high, 27 d'évaluation. Ouais, c'est propre, c'est propre.
J'ai la chance de travailler dans la plus belle radio de sport qui existe, qui est RMC.
RMC Basket Time.
Alors, il faut savoir que c'est une vraie interview après un quiz de Basket Time. Voilà, où il avait tout arraché. Donc c'est un peu l'homme à battre dans ce quiz, Félix et Sacha. Donc on va naviguer entre les deux époques, Sonics et Thunder. Il y a des questions faciles, questions rapides.
Il y a des questions jeux vidéo.
Il n'y a pas de questions sur Sonic. Je ne l'ai pas faite cette fois-ci. C'est vraiment, vraiment très, très basket. Il y a des questions très faciles, rapidité, d'autres un peu plus difficiles. La question multipoint, elle est abominable. Je vous préviens. Elle est abominable. Donc, on démarre vite. On démarre avec les Sonics sous l'ère Payton Kemp, pardon, qui est le coach emblématique.
Paul Silas.
Non. Un grand coach de la NBA. Bon, vous allez le trouver, hein. Normalement, en préparant l'émission, son nom est passé
Scott
plusieurs
Kites.
Fois. Non.
Nate McMillan.
Alors, c'est un des. Je crois que c'est un des coachs.
Ah, ok, c'est bon, je l'ai.
Tu l'as?
Ouais. Lenny Wilkins.
Non. Non, non, non.
Oh, la déception.
Mais je vais avoir
ouais, là, je suis tombé
Dennis Johnson.
Je pensais que ça allait tomber tout de suite, donc je vais vous chercher des petits indices sans vous aider trop.
Ah oui, il est décédé il n'y a pas longtemps.
Il est décédé
ben
non,
George Carl.
George Carl. Mais il n'est pas décédé à 73 ans. Tout
c'est sûr qu'il n'est pas décédé, George Carl.
Moi, je crois pas. Ouais.
J'ai quand même fait une petite vérif.
Je crois aussi. Hein,
ah bon parce que t'as tué des mecs qui étaient vivants, mais t'as peut-être gardé des mecs vivants qui sont morts aussi.
C'est mieux dans ce sens-là. Je leur rallonge un peu leur durée de vie. George Karl, premier point pour Steve. Tu peux vérifier. Oh. Je crois pas qu'il soit mort. Hein, je crois pas.
Et son fils Kobe Karl qui a joué aux Lakers. Voilà, ça c'est pour la ref.
Allez, premier point pour Steve. Mike Gelabal. On en a pas parlé. Il faut donner son nom quand même.
George Karl est vivant.
Voilà.
On le salue alors.
Ah ouais.
Il nous écoute.
On l'embrasse.
Le pauvre.
Pardon. Mike Gelabal recruté hors draft par les Sonics en 2006 au Real. Ils avaient, il n'est pas passé par la draft. 2006, c'est ce que vous vous souvenez du numéro 1 de la draft 2006 ?
Beasley.
Non.
Ah non.
C'est une petite bizarrerie, mais bon, il fait une belle carrière. Après.
Bargnani ?
Bargnani,
ah,
magnifique.
Oui, Bargnani, ouais.
Magnifique, Sacha. Bravo. Pas besoin d'indice. Andrea Bargnani, numéro 1, Toronto. Est-ce que vous savez pourquoi le nom Supersonics ? Ça, c'est difficile.
Ils n'ont pas une usine de fusées ou d'avions là-bas de...
T'es bon, mais c'est une marque en particulier.
Ah.
Une marque mondiale, incroyable, très connue.
Sony,
non.
Non, mais c'est les avions à réacteur, là.
Airbus, Boeing.
Lockheed Martin.
C'est Boing.
Ah,
qu'est-ce que je fais ? Je le donne à Félix.
05.
C'est lui.
Ah, oh, t'es gentil.
Bravo. Donc, là, moi, je suis venu carotter. je suis venu faire la voiture balai en boîte de nuit à 5h du mat au vestiaire.
Donc, c'est en référence à Boeing qui est installé à Seattle. C'était sur vote. On a posé la question. Il y a eu 25 000 réponses au moment où la franchise a été créée. Donc, ça fait un point pour tout le monde. Je vais vous faire deviner un joueur des Seattle Supersonics. Alors, c'est pas très facile parce que c'est pas un joueur très emblématique, vous le connaissez, il n'y a pas de souci, mais moi je l'aimais bien, alors d'accord. Je me suis dit on va parler de lui.
Qui, Sam Perkins ?
Drafté en 2003, il devient titulaire en début de saison 2004 et participe grandement à une très bonne saison des Sonics sous l'impulsion de Ray Allen qui appuie ce joueur auprès du coach Nate McMillan.
Ridnour.
Luc Ridnour, bravo. Bravo. Luc Ridnour.
Super meneur.
Ouais.
Super
mec-là. Ouais.
Comment tu peux aimer ce mec-là ?
Ouais.
Tu l'avais joué au moins déjà ?
Bah, c'est l'époque où, oui, je me suis intéressé à la NBA.
Tibaptou meneur,
ouais. Mais très bon passeur.
T'as testé toutes les franchises NBA, je pense.
Et après,
vraiment.
Non, mais surtout qu'il a fait une carrière un peu dégueulasse alors qu'il avait un début de carrière prometteur, ouais. À Seattle. Après, il a végété un peu partout. Il a fait 1m85, le mec.
Mais je crois que c'est le seul mec qui s'est pas fait trade et après retrade dans la même équipe, il n'y a pas une histoire comme ça ?
C'est possible. En tout cas, tu marques ton deuxième point et tu prends la tête. Dans cette équipe, qui est l'autre joueur majeur qui forme le binôme avec Ray Allen ?
Charles Lewis.
Voilà, on l'a parlé tout à l'heure, c'était rapidité, c'est pour Steve. On revient à l'équipe actuelle, Lugens Dort, il est canadien, d'origine de quel pays ?
Haïti.
C'est parti, chez Sacha en premier. Et Sacha...
Je l'ai fait en ITV pendant les jeux. Il parle très bien français.
Il est cool.
Ouais, très gentil.
T'as vu, on a la même.
Il
fait un peu petit bouboule comme ça, un peu. Non, mais très gentil.
Puis parfois, ils ont quand même des comportements insupportables. Aussi.
Lui, très gentil.
Tu l'as fait au JO ?
Ouais, je l'ai fait. J'ai demandé en français, il m'a dit oui. Après, j'ai demandé à RJ Barrett en français. Bon, il est parti tout droit.
RJ Barrett, il parle
ça balance.
Ouais, un peu.
Alors, l'actu pure, là, on revient à la demi-finale de la NBA Cup. Qui sont les deux joueurs en double-double sur ce match à l'Ouest, à la demi-finale ?
C'est quoi ?
Sengun.
Houston ?
Ouais.
Non, je me suis planté dans ma question. Ah merde, c'est pas la
c'est
demi,
dommage,
c'est le quart de finale. Ouais, c'est le tour d'avant.
C'était quoi ?
Bon, allez, c'est tombé.
OKC contre qui ?
Contre Dallas.
Ah, ok.
Donc on oublie la question, c'est pas grave.
Merci.
Vous voulez la faire ?
Non.
Waouh.
Elle n'est pas facile. Hein.
C'est quoi la réponse ?
Doncic et Hartenstein.
Ah ouais.
C'était juste pour dire un mot d'Hartenstein qui est quand même.
Bon retour.
Belle petite question.
Bon retour, Hartenstein.
Non, mais c'est vrai.
Bon
immédiatement. Comment
facile.
Dire ?
C'est un doublure. Il fait un plus joli retour que ta question d'ailleurs.
Exactement. C'est pour ça qu'on peut passer à la suite. Alors, je vous fais le point sur les scores. Sacha, 3 points. Stephen, 2 points. Félix, 1 point. En 2009. Le Thunder draft Harden en troisième position, mais a un autre premier choix, un 25e. Est-ce que vous vous souvenez de
c'est
qui ils choisissent ? Non, c'est pas Sefolosha.
Ibaka ?
Non, c'est pas Ibaka. Mais t'es un peu sur la bonne voie.
Ouais, ok.
Steven Adams ?
Ah, André Robertson.
Non, alors pas sur le poste, mais sur la culture française, en fait.
Ah. Capella ?
Non.
Petro ?
Non, alors, on se rapproche. Il draft un Français en fait.
Pietrus ?
Non.
Non. Agent ça.
Mais qui jouera pas en fait avec eux parce qu'il les chance directement avec une franchise où il a brillé plus
Miami.
Que brillé même. C'est pas Miami, c'est l'autre.
John Petro, Alexis Agent ça.
Non.
Noah. Non.
Non.
À l'intérieur.
Non.
Batum.
Enfin.
Attends, OK,
si. Si c'est
Gobert.
Non. Si c'est pas Miami. Échangé avec Dallas.
Rodrigue Beaubois.
Rodrigue Beaubois.
Ah oui.
Ils ont drafté Rodrigue Beaubois.
B.
Ils ont drafté Rodrigue Beaubois. Ils l'ont échangé. C'est bizarre comme délire. Il est 25e, il l'échange avec Dallas, avec le 24e choix, Byron Mullens.
Oh, Mullens, qu'est-ce
un grand blanc.
Était nul. Ouais, nul. Pardon, enfin, c'est un joueur non, NBA mais... qui est bien meilleur que moi, mais qu'est-ce qu'il était mauvais pour l'NBA.
T'as le mec qui est nul. Hein, tu sais.
Ah non, oui, mais...
C'est Stephen qui a la bonne réponse, on est d'accord. Hein. Ouais. Mais c'est chelou cette histoire, non? Ils échangent le 24e et le 25e choix. Ils n'avaient qu'à choisir Beaubois 24e, Dallas.
Ouais, mais c'est pour essayer de gratter un truc en plus en général.
Il y a autre chose dans l'échange.
Ouais, ouais, il y a peut-être un peu d'argent.
Un petit truc de draft de l'année d'après.
Ou du cash, des fois. Il y a du cash, ouais. Des fois.
Alors, on va finir avant la question multipoint par une question qui semble facile, mais qui peut être piégeuse. Du coup, si vous vous trompez, à chaque mauvaise réponse, je vous enlève un point.
Oula.
Sachant, Félix, que tu n'as qu'un seul point, tu peux finir en négatif.
On va essayer d'être réfléchi sur cette question.
Alors, vous allez me donner dans l'ordre. Dans l'ordre, les 5 franchises de James Harden. Ok, dans l'ordre.
Ok,
on démarre avec Félix.
Et bah le Thunder.
Voilà, premier point. C'est moi, je te donne pas de point, je vous enlève un point en cas de mauvaise réponse. Sacha.
Les Rockets.
Houston, c'est bon. Steve. Après Houston.
Brooklyn.
Brooklyn. Félix.
Et bah.
Après Brooklyn.
Après Brooklyn, il va aux Sixers.
Voilà, ouais. T'as vu comment ouais. Vous tremblez. Ouais. Sacha, la cinquième.
Les Clippers.
C'est bon. On enchaîne les 5 équipes de Kevin Durant dans l'ordre. C'est à Steve de démarrer.
Seattle.
Seattle, il n'est pas tombé dans le piège. Bravo, Félix.
Le Thunder.
Golden State Warriors.
Golden State, Steve.
Bah, je vais encore dire Brooklyn.
Les Nets, c'est bon.
Et Phoenix,
c'est bon. Et on termine, et c'est un peu plus difficile, avec les 6 franchises dans l'ordre de Westbrook. On en est à qui, là? On en est à Sacha, c'est ça?
Ouais.
Alors, Westbrook, on y va.
Et j'ai pas envie de tomber dans le piège de Seattle, OKC, je dirais OKC.
OKC, c'est bon. Steve?
Westbrook.
Après, OKC.
OKC.
C'est un peu plus difficile, hein?
Putain, je l'ai oublié. À Houston.
Excellent. Félix?
Au Wizards.
Excellent, bravo.
C'est comme James Harden, en fait.
Sacha?
OKC.
Après les Wizards.
Clippers?
Non, je t'enlève un point.
Ah,
à la souffrance.
Aux Lakers.
Les Lakers. Ah.
Tout le monde l'a oublié.
Félix.
Après les Lakers, les Clippers.
Oui, ouais. C'est bon. Et enfin,
Denver.
Sacha. Voilà.
Les Nuggets.
Donc t'as perdu un point.
Ouais, je suis deg.
Ce qui fait que c'est Steve qui a 3 points, Sacha 2 et Félix 1. Il reste la question multipoint qui est abominable. Aux enchères, vous allez me donner les joueurs qui ont joué au Thunder et au Sonics.
Mmh. Boah, c'est affreux.
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Oh, la question de fou.
Il y en a 9, mais il n'y en a pas beaucoup que vous connaissez. Enfin, vous connaissez, oui, mais dont vous allez vous souvenir, c'est abominable. Donc, Félix, première enchère.
On va partir sur 2.
Sur 2.
Pas 3.
Ton chéri.
3, ouais.
Sacha. Est-ce que tu montes, Steve?
Je monte pas.
C'est vénère après. Hein.
Je monte pas tout de suite.
Sacha, je t'écoute.
Ok, donc KD.
Attends, mais il peut surenchérir encore, Félix.
Ah. Félix, surenchéris.
Je le laisse surridiculiser.
3, c'est possible. Hein. 3, c'est possible. C'est dur déjà, mais c'est possible.
KD,
c'est bon.
Jeff Green.
Excellent, bravo. Je vais pas t'aider. Hein.
Non, t'inquiète.
Mais tu vas avoir la haine si tu trouves pas.
J'ai déjà la haine en vrai.
Dans la vie en général.
Allez, vas-y, tu me gagnes ce quiz là.
Mullens. T'es sûr?
Non. C'est surtout qu'il y en avait un à donner.
Il n'y a pas Jovan Petrovic maintenant?
Il y a Jovan Petro. Il y a ton pote Robert Swift.
Ah ouais.
Il y a Nick Collison dans les joueurs.
Putain,
dont on a
parlé. Nick,
Nick.
Et après il y a Chris Wilcox.
Ah ouais.
Très
ouais.
Fort.
Damien Wilkins.
Oui.
Earl Watson et un pivot Mohamed Sen.
Ah ouais.
Il a joué à hier Toulon, Mohamed Sen et à Gravelines.
C'est le même.
Ouais, c'est le même.
Donc tu échoues malheureusement. T'aurais pu citer Robert Swift. C'est toi
ouais,
qui en a parlé
oui,
dans
non,
cette
mais
émission.
Oui. J'ai
honte. À deux doigts de le mettre dans son 5 majeur all-time.
Il
était
quand il venait à l'entraînement, Robert.
En Suzuki.
En bateau par la Seine.
Suzuki.
Son Suzuki.
Suzuki Swift.
Ah oui, moi j'étais sur Robertson, ça marche pas.
Vraiment, allez checker une photo de Robert Swift. Il a une tête de
fou. C'est vrai que t'as pas fait de question sur Andreas Robertson, joueur de Casey qui joue à Cholet à Laswell cette année.
Parce que je savais pas.
Ah, tu savais pas, d'accord.
Bravo Steve, c'est toi qui remporte le quiz à la semaine prochaine.
RMC Basket Time.